François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute du débat sur RFI. Le 31 mars, il y a un an précisément, débutait l'opération Nuit Debout, place de la République à Paris. Une foule plutôt jeune s'est alors réunie quotidiennement pour exprimer son désir de débattre d'une autre manière de faire de la politique. Les idéaux, les propositions, les revendications étaient multiples et le consensus n'était pas systématiquement ou n'était pas recherché. Les participants avaient un point commun fort, en tout cas être ensemble pour discuter, écouter, partager, acteur ou simple témoin de l'événement. Après quelques mois, le mouvement s'est essoufflé. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? L'esprit de Nuit Debout est-il toujours en éveil? On va en parler avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Je vais commencer avec vous, Patrice Maniglier, philosophe, maître de conférence en philosophie et art du spectacle à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Vous avez coordonné ce numéro de la revue Les Temps Modernes chez Gallimard, sorti en décembre 2016, qui s'intéresse au phénomène et qui a pour titre Nuit Debout et notre monde. Bonsoir à vous, Patrice Maniglier.
Bonsoir.
Et puis Benjamin Boll est militant, ancien du mouvement Les Indignés. Vous êtes-vous le co-auteur de ce petit livret qui s'appelle Nuit Debout, hashtag 32 mars. C'est aux éditions Cherche Midi. Bonsoir Benjamin Boll.
Bonsoir.
Alors, on peut peut-être commencer par une définition pour ceux qui n'en sauraient rien. On nous écoute beaucoup, vous le savez, hors de France. Comment on pourrait qualifier, comment on pourrait définir Nuit Debout? Je commence avec vous Benjamin Boll.
À Nuit Debout, c'est un mouvement assez particulier qu'on appelle mouvement des places, qui est dans la lignée des mouvements de type Occupy, Indigné, ou pourquoi pas les mouvements qu'il y a pu y avoir dans certains printemps arabes. L'idée, c'est qu'on occupe la place en mode agora, on se rassemble et on ouvre un espace de discussion où physiquement on appelle tous les gens qui ont une indignation, une colère, qu'elle soit thématique ou pas, à venir s'exprimer. Et donc toutes et tous peuvent venir, c'est inclusif et les choses se co-construisent un chemin.
Voilà. Vous adhérez à cette définition? Vous pouvez la compléter éventuellement, Patrick Maniglier?
Oui, je dirais que c'est en fait une tentative de reconstruction d'un espace politique dans un contexte où on a le sentiment que les institutions dans lesquelles on pourrait faire de la politique sont frappées d'illégitimité ou d'impuissance radicale.
Et avec le recul alors désormais, quel serait le bilan de cette année d'existence pour vous?
Je ne sais pas s'il y a un bilan à faire, mais à la question est-ce que l'esprit de Nuit Debout est toujours en éveil, moi je pense que oui, au sens où Nuit Debout c'était la sortie de la terre recouverte par les pavés des places de tout un peuple, enfin pas au grand sens avec une grande majuscule, mais de tout un très grand nombre de gens qui ne se sentaient plus du tout représentés d'aucune manière. Et je pense que ces gens, à nouveau, ne se sentent plus représentés d'aucune manière et que donc ils sont là. Donc la question, c'est simplement de savoir comment ils vont ressortir. Mais ils sont là.
Comment se porte le collectif aujourd'hui, Benjamin Boll?
Bien, écoutez, Nuit Debout, sur les différentes places où ça s'est tenu, continue. Les gens sont encore là. Les raisons de s'indigner, d'être en colère et de se mobiliser sont toujours là. Donc clairement, Nuit Debout existe et toujours en éveil. Nuit Debout, c'est un incubateur. Beaucoup de choses en sont sorties. On a par exemple une aide qui a été apportée pour la mobilisation contre la corruption. On a pu voir Stop Corruption apparaître. Nuit Debout aussi a fait émerger un média alternatif à Toulouse, par exemple, la Brèche. Nuit Debout a fait émerger des projets locaux, des projets nationaux ou internationaux. Et clairement, il y a quelque chose qui est toujours présent. Maintenant, ce qui est important, c'est de se dire que ces canaux qui ont été créés, les gens qui y ont participé, sont là, dans l'attente d'une étincelle, de quelque chose, pour pouvoir reprendre les places de nouveau ou se mobiliser de toute autre manière, mais de façon toujours disruptive dans une société où justement il y a un problème de légitimité, comme le disait Patrice Manning.
Après avoir occupé l'actualité pendant des mois, quand même, il faut le dire, le mouvement, enfin on a dit, lisant la presse, c'est l'idée qui en est ressortie, que le mouvement s'était essoufflé. Comment vous expliquez-vous cette baisse de régime?
C'est le propre d'un mouvement des places. Un mouvement des places où on est là en permanence, où on est là tous les jours, jour après jour, eh bien, clairement, c'est un mouvement qui ne peut pas durer de la sorte. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est que c'est un mouvement qui a des cycles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, par exemple, quand il fait plus froid, par exemple, quand l'actualité politique est moins chaude, ou quand il y a une mobilisation sociale qui est moins importante, eh bien, les gens vont avoir une tendance à moins sortir dans la rue et puis ne pas être sur les places en agora à discuter. Par contre, quand on voit qu'il y a une actualité chaude sur la question féministe, sur la question de la corruption, sur la question des violences policières, on l'a vu encore hier sur la place de la République également, eh bien, les gens ressortent, se remettent en lien et essayent de co-construire quelque chose. Donc la forme de mouvement des places est quelque chose de mouvant. Il ne faut pas être fétichiste de la place et de se dire, eh bien, c'est quelque chose qui est au service, qui est au service des luttes, des causes et des gens.
Vous êtes d'accord avec l'essoufflement, c'est une réalité, on peut pas la nier. Vous l'expliquez comment, vous, de la même manière?
Je ne sais pas si j'ai envie d'expliquer, mais j'aurais plutôt envie de dire, bon, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'expérience qu'on a faite, et donc aussi de voir ce qu'on pourrait faire mieux, enfin, les erreurs. Si un jour quelque chose se reproduit, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Moi, je suis philosophe, alors j'avoue que je me pose des questions sur qu'est-ce que je peux apprendre. Et il y a de multiples causes. Quand même, la première, il faut dire, c'est que le mouvement a été réprimé. Par exemple, il avait quand même l'autorisation de rester tout le week-end, les premiers jours, justement, il y a un an, le 31 mars. L'État n'a pas tenu ses engagements, il faut quand même le redire. On avait l'autorisation de rester tout le week-end avec des tentes, etc. La police nous a délogés à 5h du matin. Bon, donc il a été réprimé. C'était dur, je veux dire, très dur.
Dès les premiers jours ?
Le premier jour. Justement, ça n'a jamais été un mouvement d'occupation des places parce que l'État, encore une fois, n'a pas tenu ses engagements. On avait le droit de rester et on a été viré, ce qui a donné aussi cette caractéristique assez particulière d'insistance, de retour, etc. Bon, par ailleurs, je pense qu'effectivement, la forme du mouvement, notamment, moi, j'ai eu le sentiment, parce que c'était là où j'étais engagé, mais il y a eu toutes sortes de choses, mais que l'organisation des grandes assemblées générales du soir, qui a suscité beaucoup d'espoir, je pense, de la part de beaucoup de gens très variés, parce que c'était ça, Nuit Debout, c'était pas forcément des gens très très militants qui venaient, il y en avait, mais c'était la construction justement d'un commun entre des gens très différents. Et le lieu de ce commun, c'était l'Assemblée. Et assez rapidement, l'Assemblée, qui était d'abord magnifique, parce qu'on était très surpris d'entendre tous ces gens s'écouter les uns les autres avec tant de passion, etc., eh bien peut-être au bout d'un moment, on n'a pas su redonner des enjeux à ces rencontres. Et je crois que ça a été une des raisons du fait qu'on n'a pas réussi à tenir ces rencontres.
Vous allez plus loin, puisque vous dites qu'il y a... Vous évoquez, vous, au sein des rassemblements Nuit Debout, je vous cite, ce que la presse en dit, en tout cas, beaucoup d'ennui, une certaine tristesse, un sentiment de vanité. Est-ce que vous pouvez expliquer cette déception que
je disais toujours, la règle est devrait nous permettre de nous retrouver, parce que justement, c'était pour ça qu'on est là, on sortait pour être ensemble et faire du fait qu'on est ensemble une puissance de transformation du monde. Et en fait, cette règle qui nous obligeait de faire des tours de parole de 2 minutes, de manière complètement hétérogène, faisait qu'on n'avait pas de discussion, en fait, commune. Et c'était pour ça que c'est devenu, c'est vrai, ennuyeux, un peu triste. Aussi, il faut dire qu'une grande partie de l'organisation du mouvement s'est faite par les réseaux, par Telegram, etc. De sorte que finalement, on était là juste pour se regarder, faire son petit tour de piste et s'en aller. Et je pense que ça a beaucoup nuit quand même à notre capacité à mobiliser, puisque c'est quand même ça l'enjeu. Justement, il y a une étincelle. Cette étincelle, c'était la loi travail dans un contexte d'état d'urgence, de trahison hallucinante quand même des engagements de l'exécutif par rapport à son mandat. Bon, et dans ce contexte-là, quelque chose était à faire. Il doit y avoir 1000 raisons pour lesquelles ça n'a pas reçu. Mais je pense que c'est aussi intéressant de dire ce qu'on n'a pas bien fait.
Ouais. Nuit Debout vous a déçu, vous aussi, Benjamin Ball?
Non, pas du tout.
J'ai pas dit que j'étais déçu.
Je suis habitué des...
Je suis habitué des
mouvements des places et il n'y a pas de déception dedans. C'est quelque chose qui se fait en chemin. Et en chemin, on a appris, on a construit des choses. Et puis, clairement, il y a des leçons qui ont été tirées. On voit plusieurs assemblées qui se sont dotées de modes d'organisation différents avec le temps, qui, y compris en ayant moins de monde, ont pu se réorganiser autour de la question de la prise de décision, autour de la question de comment est-ce qu'on construit des enjeux ensemble. Donc, clairement, il n'y a pas de déception, en tout cas pour ma part, et pour beaucoup de gens qui y sont allés. Ce qui est gênant, par contre, c'est qu'il y a une injonction du système à ce qu'on produise des résultats. Et en fait, si les résultats ne sont pas visibles immédiatement, on peut les palper dans la société. Il y a tout un tas de gens qui ne peuvent plus militer de la même manière parce qu'ils ont été à Nuit Debout, parce qu'ils sont allés dans un espace d'écoute, un espace d'agora, de co-construction. Et quand on va leur dire « maintenant c'est l'heure de te taire et tu vas militer comme on te dit ou tu vas suivre comme on te dit », ils ne peuvent plus l'accepter. À partir de ce moment-là, Nuit Debout transforme par capillarité les différents mouvements dans lesquels les gens qui ont été sur les places peuvent participer.
Qu'est-ce qui reste alors pour vous, Patrice Maniglier, de Nuit Debout, de ces regroupements, de ces débats? Benjamin Boll l'évoquait un petit peu tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec lui?
Il reste, oui, je suis assez d'accord. Oui, il reste beaucoup de choses. Alors, par exemple, je pense que les mouvements qui ont eu lieu récemment autour de la question des violences policières sont un signe directement dans l'expérience de Nuit Debout, parce que c'est là où on a un peu à tâtons cherché à construire une alliance entre les jeunesses militantes, parfois urbaines, jeunesse plus ou moins jeune d'ailleurs, et des jeunesses populaires périurbaines. Et en fait, je me rappelle, beaucoup de gens des quartiers nous disaient « oui, vous étiez pas là au moment des émeutes de 2005, nous on va pas être là ». Et puis en fait, ils se sont rendus compte qu'on était là finalement. Donc là, il y a quelque chose, c'est ça je pense dont Benjamin Boll parle, c'est-à-dire des solidarités qui se sont aussi tramées, et ça reste. Et puis peut-être effectivement un esprit, alors ça c'est grave d'ailleurs, enfin c'est triste quelque part, c'est que la réponse, disons, des institutions a été tellement négative, tellement méprisante et parfois violente, que je pense un certain nombre de gens, effectivement, se sont radicalisés au sens qu'ils ont pris des armes, mais au sens où ils sont beaucoup moins prêts au compromis. Mmh. Et c'est un peu, enfin, c'est dommage pour eux parce qu'ils vont se prendre plus de coups, et c'est dommage pour le monde qui les refuse parce qu'il avait quelque chose à gagner.
Mais est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu que le mouvement se structure davantage pour peser?
Non, je crois pas que ce soit une question de structure, parce que la force d'un mouvement comme ça, c'est justement qu'il est en dehors des organisations. Et c'est précisément parce que les organisations ne sont pas capables aujourd'hui d'être convaincantes, de susciter de la confiance, qu'on n'y vient pas. Vous savez, les grands mouvements insurrectionnels, y compris récents en Tunisie, en Égypte, tous reposent sur le fait qu'on voit son voisin désobéir. Et quand mon voisin désobéit, je me sens plus encouragé à désobéir. Donc il faut qu'on soit plus nombreux à désobéir pour être prêt à désobéir. C'est le paradoxe. Et moins on est nombreux à désobéir, moins on désobéit.
C'est un processus d'accumulation de force. En fait, tout simplement, les gens, quand ils voient qu'il y a d'autres gens qui sont en capacité de se mobiliser et qui se disent ils et elles peuvent le faire, et moi aussi. Et donc si ils et elles peuvent le faire et peuvent se mobiliser, je peux y aller, je peux aller à mon tour sur la place, je peux aller à mon tour me mobiliser dans cet espace-là et dans d'autres. Si on essaye de savoir ce qui reste un petit peu et comment la question c'était est-ce qu'on aurait dû se structurer pour peser.
Oui.
En fait, ça c'est une question très très propre au vieux monde, c'est-à-dire c'est des structures, des organisations qui ont besoin d'avoir un nombre d'adhérents, qui ont besoin d'avoir des résultats immédiats. Et si on essaye de se faire un pas de côté et de dire, et si on pensait différemment, et si on essayait de se dire comment est-ce que les choses se diffusent d'abord puis ensuite infusent dans la société, eh ben on pourra se rendre compte que d'abord le mouvement des indignés qui avait été assez faible en France, il s'est quand même diffusé, il a infusé dans tout un tas de mouvements. Il a permis notamment qu'il y ait des réseaux qui soient préexistants pour pouvoir aider à ce que Nuit Debout se développe. Et quand Nuit Debout s'est développé et qu'il y a eu cette extraordinaire mobilisation en France, moins forte bien sûr que ce qu'il y a pu avoir en Espagne, ça va préfigurer d'autres choses encore plus fortes plus tard. Donc plus le système se crispera et plus ils essaieront de nous imposer des élections complètement bidons comme ce qu'ils sont en train de faire, ou des mobilisations ou réprimer très fortement, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Les gens, à un moment donné, ils vont se dire c'est pas dans ces espaces-là qu'on va construire, on va construire comme on a déjà appris, comme on a appris il n'y a pas si longtemps que ça, et ils vont revenir et ils vont remettre du cœur à l'ouvrage, et c'est ça qui va créer une force qui sera toujours disruptive, y compris pour nous-mêmes, parce que nous-mêmes, ça va nous surprendre.
Donc Nuit Debout n'avait pas l'intention de devenir une force politique, et c'est très bien comme ça, c'est ce que vous nous dites.
Frédéric Lordon avait une bonne intention, par exemple, quand il avait exprimé son « nous ne revendiquons rien ». Et quand il était sur cette position-là, c'était assez intéressant de voir que est-ce qu'un mouvement a besoin de revendiquer quelque chose d'autre que la nécessité de se retrouver, de faire ensemble, de s'appuyer, de rentrer en solidarité. Je vais vous donner un exemple. À Créteil debout, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les gens étaient sur la place, ils étaient en train de discuter, et il y a une dame qui est venue et qui a dit « moi j'ai un problème de logement, je vais me faire expulser ». Et ni une ni deux, ils se sont dit « en fait ce qu'on doit faire, c'est aider cette personne. Et si on leur avait dit, vous devez peser, vous devez choisir les causes, vous devez aller dans le système et montrer votre rapport de force de telle ou telle manière, eh bien, ils auraient probablement échoué. Mais là, ils ont réussi, ils ont obtenu que cette dame soit relogée, et ça a créé une confiance et une solidarité intergénérationnelle de différents types de populations dans cette ville. Et ces exemples-là, il y en a des centaines, puisqu'il y a eu 500 places sur lesquelles il y a eu des Nuits debout.
D'accord. Patrice Maniglier, vous pensez-vous qu'il aurait fallu que le mouvement se prolonge et ne perde pas de son intensité ?
Oui, et que surtout il en gagne plus. À vrai dire, moi, je pense que le sens de ce genre de mouvement, c'est de créer effectivement une interruption. Imaginez si des millions de gens étaient venus sur les places tous les soirs. Il y a un moment où, comme on fait dans ce genre de situation, le gouvernement aurait dû démissionner. Oui. Donc, c'est important parce que ça donne. C'est bien sûr, on peut dire, c'est pas si important les débouchés, c'est pas faux. J'entends très bien ce que dit Benjamin Bolle, mais encore une fois. Plus on est victorieux, plus on a envie d'être victorieux. Donc il faut avoir des petites victoires quand même. Et là, il faut dire quand même qu'on n'en a pas eu beaucoup. On a été quand même effectivement assez maltraité. Donc moi, j'aurais effectivement souhaité que le mouvement soit capable, mais peut-être il n'a pas été pour différentes raisons, de créer en fait une crise très ample des institutions, qui nous fasse vraiment peur.
Et ce premier anniversaire...
C'était le but, alors, quand même, faire peur.
Ce premier anniversaire, alors c'est quoi ? C'est un premier pas dans l'histoire ou c'est une dernière fête avant de rentrer à la maison ?
Non, encore une fois, je pense que les raisons pour lesquelles Nuit debout a existé sont toujours là et que beaucoup de gens attendent la nouvelle étincelle. Et peut-être d'autres formes de mobilisation. Je ne sais pas si ce sera à nouveau un mouvement des places, mais je suis convaincu que là, le problème n'est pas réglé. Tant que les élites ne comprennent pas qu'il y a un problème et font comme s'il n'y avait aucun problème, comme le roi est nu mais tout le monde s'en fiche, eh bien, ils vont avoir des surprises. Et c'est dommage parce que ça peut être, encore une fois, violent. Ça arrive, la violence dans l'histoire.
Benjamin Bolle.
Les élites installées, que ce soit l'éditocratie ou que ce soit ceux qui se prétendent avant-garde.
C'est quoi l'éditocratie ?
L'éditocratie, c'est les gens qui sont au service de quelques grands médias et qui sont là pour asséner qu'il n'y a pas d'alternative, qu'on doit vivre dans ce système-là et qu'il n'y a le choix qu'entre l'oligarchie et la haine. Mmh. Et face à eux, on a une certaine avant-garde éclairée qui dit ce n'est pas aux gens, aux habitantes et aux habitants de décider pour eux-mêmes comment ils doivent se mobiliser. Mais c'est à nous, qui sommes des professionnels des organisations politiques, syndicales ou voire même associatives, qui devons décider comment ça doit se faire. Le propre d'un mouvement des places, c'est que tout se passe normalement dans une agora. Et donc cette agora-là, n'importe qui peut y venir et n'importe qui peut participer à la décision. L'anniversaire que l'on fait là... Un an plus tard, donc
ce 32 mars.
32 mars, un an plus tard, ou 366 mars si on garde
le premier. Si vous voulez supprimer le 1er avril,
voilà,
c'est ça.
Exactement. Eh bien, cet anniversaire-là, il est assez intéressant parce que ça a mis du temps à ce que les gens se disent « Ok, on va l'organiser, c'est un moment important ». Mais ce temps important n'est pas un temps de commémoration. C'est un temps de dynamisation, c'est un temps de travail sur nous-mêmes, c'est un temps où il y aura de la remise en question. Et c'est un temps aussi où on va travailler sur d'autres thématiques. Une thématique qui a été extrêmement forte pendant Nuit debout était la question sociale. Cette thématique-là est toujours présente, bien entendu, mais d'autres thématiques s'y sont ajoutées au cours de l'année. On a un travail sur la question du féminisme, sur la question de la corruption, sur la question de l'écologie. Et il y a un travail spécifique, là, pour le cas parisien, en lien avec Rennes, qui va se faire aux Tuileries, sur la question démocratique. On voit bien que c'est un mouvement qui, dans la discussion, a beaucoup évolué, a fait preuve de beaucoup d'intelligence et qui amène des propositions. Je vous invite à lire les propositions qu'on appelle les propositions du 32 mars, qui sont les propositions qui vont être faites et présentées aux Tuileries sur la question démocratique. Et je vous invite également à lire les propositions qui avaient été faites par Écologie Debout, qui sont clairement assez en avance sur leur temps.
On a quasiment la fin de l'émission. Je reviens sur cette affirmation que vous faites, Patrice Maniglier, que le mouvement ne renaîtra pas de ses cendres sous la même forme. Quelque chose couve. Est-ce qu'on sait quoi en 15 secondes ? D'après vous, vous avez une idée déjà ?
Non, mais je pense encore une fois que les mouvements contre les violences policières sont le genre de choses qui feront... que quelque chose de nouveau se fait en France.
Bon, allez, on n'en dira pas plus ce soir, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux, Patrice Maniglier, philosophe. Je rappelle le nom de bouquin que vous avez coordonné, c'est dans la collection Les Temps Modernes, ça s'appelle Nuit debout et notre monde, et puis Benjamin Bolle, Lui, votre Nuit Debout à vous s'appelle hashtag 32 mars, hein, c'est au Cherche Midi. Merci également à Florence Ponce qui a préparé cette émission et à Fabrice Violet qui la réalise. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez à l'écoute, bien évidemment, de Radio France Internationale. Dans quelques secondes, un nouveau journal sur RFI. Bonsoir à tous.